Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
God save the Queen, she ain't a human being. There is no future in England's dreaming.
Bonjour. Sous les lambris dorés de Buckingham Palace, les accusations de racisme résonnent encore. Après l'interview accordée par le prince Harry et Meghan Markle début mars à la présentatrice américaine Oprah Winfrey. Elisabeth II, qui se dit attristée, vient d'annoncer selon le Mail on Sunday une formation du personnel des maisons royales pour améliorer l'approche de la diversité. Mais l'affaire a fait aussi grand bruit dans le Commonwealth qui, comme le dit Meghan Markle, est constitué en majorité de pays dont la population n'est pas blanche. C'est l'occasion de se pencher sur la pertinence de ce Commonwealth auquel la reine est très attachée. À Londres, le décryptage de Marie Billon.
Le jour où la fameuse interview d'Harry et Meghan a été diffusée au Royaume-Uni, le 7 mars, était par coïncidence le jour de la célébration du Commonwealth. Elisabeth II, qui en est la chef, en a profité pour montrer que la monarchie n'est pas qu'une affaire de querelle familiale, mais qu'elle est bien active. La reine avait diffusé ce message aux nations du Commonwealth la veille.
Même si tous les pays du Commonwealth n'ont pas vécu la même expérience en cette année de pandémie, partout nous avons pu observer des démonstrations de courage, d'engagement et de don de soi. Dans le futur, les relations que nous entretenons au sein du Commonwealth continueront à jouer un rôle essentiel pour cet avenir plus durable et plus sûr que nous voulons construire.
Elisabeth II est très attachée au Commonwealth. Le jour de ses 21 ans, elle avait dédié sa vie au Commonwealth dans un message télévisé. L'image et le son ont vieilli, mais pas l'engagement.
I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong.
Nous sommes en avril 1947. Quelques mois plus tard, l'Inde sort de l'Empire britannique et acquiert son indépendance. C'est la deuxième phase du Commonwealth qui commence, celle où des nations indépendantes, au passé commun, décident d'associer leurs efforts. Mais il faut attendre les années 60 pour que les choses se formalisent un peu plus, explique Sol Dubow, professeur à l'Université de Cambridge.
Le Commonwealth est une organisation étrange car il n'a pas de date de début et n'aura peut-être pas de fin. Aucune constitution ne le définit. Il s'est construit autour de l'Empire britannique, probablement vers la fin du XIXe siècle. Dans les années 1960, naît le secrétariat du Commonwealth, avec l'aide directe de la reine, et c'est là que réside le véritable mécanisme du Commonwealth.
Ce secrétaire, élu en interne, a parfois une grande influence, explique l'historien. Par exemple, en 1986, lors du débat sur les sanctions à imposer en Afrique du Sud pendant la période de l'apartheid. Mais dans cet épisode en particulier, la reine a aussi joué un rôle important, poussant en coulisses sa première ministre réticente, Margaret Thatcher, à rejoindre le reste du Commonwealth dans la condamnation du régime de l'apartheid. Un épisode qui résonne beaucoup aujourd'hui, alors que la famille royale est accusée de racisme.
La monarchie joue un rôle fondamental dans le Commonwealth, surtout symboliquement et, à un certain degré aussi, juridiquement. Mais son influence repose avant tout sur la reine Elisabeth en personne. Donc, même s'il a été décidé que le prince Charles prendrait la suite de sa mère à la tête du Commonwealth, ce n'est pas sûr qu'il puisse assurer un tel rôle. Ce qui en soi pousse certains pays membres, comme la Barbade, à se dire que ça suffit, qu'il y a trop de liens avec le passé colonial. Mais je pense que ce mouvement est aussi lié au statut du Royaume-Uni sur la scène internationale. Et on ne peut pas dire qu'il y ait brillé ces dernières années.
La Barbade a effectivement décidé de devenir une république il y a plusieurs mois et ce sera chose faite en décembre. Guy Hewitt, ancien haut-commissaire de la Barbade, s'est exprimé dans l'émission Newsnight de la BBC après la diffusion de l'interview d'Harry et Meghan.
Notre décision est due au fait que l'institution de la monarchie reflète un passé colonial, oppressif. Avoir Sa Majesté comme chef d'État de la Barbade n'est pas compatible avec les aspirations de la majorité de la population qui est noire, qui aspire à un avenir plus égalitaire et pour qui la royauté ne signifie pas grand-chose.
La Barbade deviendra donc le 34e pays sur 54 à être une république au sein du Commonwealth. L'Australie pourrait prendre la même direction après le décès d'Elisabeth II. Mais la Barbade restera dans le Commonwealth, l'Australie aussi certainement, car le Commonwealth est un porte-voix pour beaucoup sur la scène internationale, explique Saul Dubow.
So it's all about creative diplomacy.
Tout repose sur la diplomatie créative. Pour des questions comme le droit des LGBT, par exemple, il a toujours été difficile pour le Commonwealth de réconcilier les points de vue de pays comme l'Australie et le Pakistan, par exemple. Mais sur les questions de changement climatique, la situation d'un pays comme le Vanuatu, directement menacé, est en ligne avec les ambitions des grands pays occidentaux.
Countries within the Commonwealth.
Et puis, il y a une grande affection pour le Commonwealth dans les populations, parfois pour des raisons un peu faussées. Les jeunes, par exemple, y sont souvent attachés, notamment grâce aux bourses du Commonwealth. L'université du professeur Dubow, Cambridge, en propose une, mais elle n'a de Commonwealth que le nom et n'est pas liée à l'organisation elle-même.
Aux Pays-Bas aussi, la monarchie est sous le feu des critiques, en raison cette fois de la crise sanitaire. Le Covid fait chuter de son piédestal une famille royale jusque-là populaire. En cause, le mépris des règles imposées à tous. Mépris qui ravive le républicanisme dans le pays. À la haie, les précisions d'Antoine Moutot.
Un Boeing 737 gris et blanc sur lequel on peut lire « Koninkrijk der Nederlanden, royaume des Pays-Bas ». Le 16 octobre dernier, Menoswart se trouve à l'aéroport international de Schiphol lorsque, près d'un hangar sécurisé, il aperçoit l'engin sur le point de décoller. Après quelques recherches, ce journaliste spécialisé dans le secteur aérien apprend qu'il s'agit d'un vol à destination de la Grèce, le pays où la famille royale néerlandaise possède une maison de vacances. Il publie alors une photo de l'avion sur Twitter et appelle le service de presse du gouvernement pour une réaction, mais personne n'accepte de lui répondre. Entre-temps, sur les réseaux sociaux, sa découverte est très commentée et les grands médias nationaux s'en emparent. Il faut dire que le pays est alors gravement touché par le Covid-19. Quelques heures plus tard, sous la pression, la famille royale est contrainte à revenir immédiatement aux Pays-Bas. Suivront plus tard les excuses officielles du roi Willem-Alexander et de son épouse, la reine Maxima.
Cela nous fait mal d'avoir trahi votre confiance.
Mais le mal est déjà fait. Selon une étude de l'Institut de sondage Ipsos, en décembre dernier, seuls 47% des Néerlandais se disaient encore très satisfaits de la famille royale, contre 76% en avril, peu de temps après le début de la crise sanitaire. Leur voyage en Grèce en catimini y est pour beaucoup, mais ce n'est pas la seule raison. Une autre photo prise quelques mois plus tôt lors de leurs vacances d'été, toujours en Grèce, avait elle aussi fait grincer des dents. On y voit le couple royal posé aux côtés d'un ami sans respecter aucune distance de sécurité. La récente augmentation de 5% du salaire des membres de la famille royale passe très mal aussi, et de son côté, la Société des Républicains Néerlandais affirme constater depuis peu une très forte hausse de ses demandes d'adhésion.
En Suède, en revanche, c'est tout le contraire. Les têtes couronnées se montrent exemplaires dans la lutte contre la pandémie, presque à contre-courant de la politique du gouvernement, nous explique Anne-Françoise Hiver.
En effet, depuis le début de la pandémie, la cote de popularité de la famille royale, même si elle n'a pas été officiellement mesurée, est sans aucun doute en hausse. Prenons le roi d'abord, Carl XVI Gustave, 74 ans sur le trône depuis 1973, peu charismatique, médiocre orateur, fustigé pour ses phrases sexuelle révélée dans un livre en 2010. Pendant la pandémie, le monarque a incarné la voix de la raison, une forme de figure paternelle. Dans un discours à la nation début avril 2020, il appelait les Suédois à la solidarité et la résilience. Pendant les mois qui ont suivi, il s'est isolé avec sa femme, la reine Sylvia, dans un de leurs châteaux. Le 15 janvier dernier, ils se sont fait vacciner pour donner l'exemple. La princesse Sophia, femme du prince Carl-Philippe, elle est allée travailler dès le mois d'avril dans un hôpital de Stockholm pour venir en aide aux soignants auprès des patients atteints du Covid. Un geste salué par le directeur général de l'OMS en personne. Depuis, elle a dû mettre un terme à ses activités pour cause de grossesse. Et puis, en novembre, la princesse et son mari ont tous les deux été testés positifs au Covid. Même chose pour la princesse héritière Victoria et son époux, le prince Daniel, contaminé en mars.
Mais ce qui surprend surtout Anne-Françoise depuis quelques mois, ce sont les entorses plus ou moins discrètes à la règle qui veut que la famille royale reste en retrait de la vie politique. Et c'est la stratégie du gouvernement face au Covid qui est visée.
Mi-octobre, lors d'une visite à l'hôpital Karolinska à Stockholm, la reine fait mine de s'étonner. Pourquoi donc la Suède n'utilise pas le masque quand c'est le cas partout ailleurs? La réponse reste vague et le roi de railler. En fait, personne ne peut l'expliquer. Dans une longue interview à Noël sur la chaîne SVT, il va plus loin, qualifie la stratégie suédoise d'échec. Le mot fait l'effet d'une bombe en Suède. En février, enfin, quand le chef épidémiologiste juge préférable que les Stockholmois partent au ski plutôt que d'errer dans les centres commerciaux de la capitale, la famille royale, elle, fait savoir qu'elle renonce à ses vacances au sport d'hiver par respect pour les soignants. Commentaire du journal Dagens Nyheter. Les têtes couronnées semblent être les seules représentantes officielles qui n'essaient pas de trouver des subterfuges, mais font ce qu'il faut sans hésiter.
Merci Anne-Françoise Hiver, notre correspondante en Suède. À quoi sert encore la monarchie? Cette question, beaucoup d'Espagnols se la posent. Les abus et les privilèges de la royauté irritent sans cesse davantage la population. Le roi émérite Juan Carlos est sous le coup de plusieurs enquêtes judiciaires et sa fuite à Abu Dhabi l'été dernier a été diversement appréciée. D'autre part, la présence au gouvernement du parti Podemos, favorable à un référendum sur le maintien de la monarchie, fragilise encore un peu plus l'institution. Car au-delà de Juan Carlos, c'est l'ensemble de l'approche famille qui éclabousse le règne de l'actuel roi Felipe VI. À Madrid, le reportage de Diane Cambon.
Il y a une dizaine de jours, on apprenait que ses sœurs, les deux infantes, avaient reçu en toute discrétion le vaccin contre le Covid lors d'une visite à leur père Juan Carlos à Abu Dhabi. Un traitement de faveur très mal perçu par l'opinion publique, alors qu'au même moment, on apprenait que le roi émérite Juan Carlos allait régulariser sa fortune opaque, évitant ainsi le délit fiscal. Pour Susana, une madrilène de 58 ans, c'est tout le statut de la monarchie qui doit être revu.
Ça n'a plus aucun sens, cette monarchie. Ils essayent de redorer son image, mais c'est chaque fois pire. Il a fallu que ce soit de la Suisse que l'on apprenne le scandale financier de Juan Carlos. Ici, il a toujours été protégé par la presse, la classe politique et les entrepreneurs.
C'est au compte-gouttes que les Espagnols apprennent les troubles affaires qui entachent la monarchie. Actuellement, Juan Carlos est au centre de trois grandes enquêtes judiciaires, dont une liée à une commission opaque de 100 millions d'euros qu'il aurait présumément reçue de l'Arabie Saoudite en 2015 lors de la construction du train à grande vitesse espagnol à La Mecque. En s'auto-exilant aux Émirats Arabes Unis, en août dernier, Juan Carlos cherche à protéger son fils Philippe VI, mais aussi à sauver l'institution. Or, c'est tout le legs historique du roi émérite qui est désormais remis en question par ses frasques. Pour Susana, une icône est tombée.
On nous a fait croire que c'est grâce à lui que la démocratie a pu être instaurée en Espagne. Mais on oublie trop vite qu'il a été éduqué et mis en place par le dictateur. À la mort de Franco, la démocratie serait arrivée de toute façon, vu le contexte de l'époque. Le résultat, c'est qu'on a hérité d'un roi corrompu et d'une famille qui reste sur le trône à cause d'une histoire de lignée.
Une grande partie de la population, plutôt conservatrice, défend encore le rôle de Juan Carlos dans la consolidation de la démocratie. C'est le cas de Maria, employée de banque, portant un masque marqué de la bannière jaune et rouge espagnole.
Il n'est pas totalement excusé, mais vu le panorama de la classe politique, au moins nos rois, on les connaît. Et si c'est vrai qu'il a volé, bien sûr, c'est pas bien, mais tout le monde vole. Et puis lui, au moins, il a dit qu'il voulait payer le fisc. Pour moi, la monarchie doit continuer.
Le maintien de la monarchie est devenu une question de plus en plus présente dans le débat espagnol, notamment depuis l'arrivée au pouvoir en coalition avec les socialistes du parti Podemos, défenseur de l'instauration d'une république. Pour José Antonio Salsaleros, journaliste et auteur du livre « Philippe VI », c'est là que réside le véritable danger pour l'institution.
L'ambiance politique a changé avec l'arrivée de responsables qui défendent la République et qui demandent un changement de forme de l'État. La question du statut du roi et de celui de Felipe VI est au centre du débat. On ne peut plus tolérer un monarque coupable de délinquance financière qui s'en sort en toute impunité. Cette fois, l'histoire de son père crée un précédent.
Selon une récente enquête de la plateforme des médias indépendants, les scandales financiers sont à l'origine de la méfiance envers l'institution monarchique. 39% des Espagnols seraient aujourd'hui favorables à la République, contre seulement 34% en faveur du maintien de la monarchie. Un changement de régime parlementaire qui est pour l'instant totalement écarté des projets de l'exécutif socialiste.
La Turquie s'est retirée vendredi de la Convention d'Istanbul qui préside à la lutte contre les violences faites aux femmes au Conseil de l'Europe. Un signal inquiétant pour la ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde. Alors que les relations entre l'UE et Ankara sont pour le moins tendues, Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, doit évoquer cette semaine avec les 27 d'éventuelles sanctions contre Ankara. Dans le pays, la spirale autoritaire continue. Élu il y a quelques mois à la tête de l'Association des médecins de Turquie, Şebnem Korur-Financı est sous le coup d'un procès. Anissa El-Jabri nous brosse le portrait d'une femme qui ne mâche pas ses mots.
Avec ses cheveux poivre et sel, son visage rond et avenant, barré par de fines lunettes, Şebnem Korur-Financı pourrait couler des jours paisibles. Retraitée, cette ex-médecin, légiste et enseignante a pourtant pris la tête l'automne dernier de l'Association des médecins de Turquie. En pleine pandémie, ses chiffres et analyses sont très écoutés, sa vision de la gestion sanitaire très sévère.
Depuis le début de la pandémie, l'Union des médecins de Turquie a invité le ministère de la Santé à agir avec le maximum de transparence. Or, on se rend compte que sur le nombre de cas, sur les mesures mises en place, il y a une certaine opacité depuis le début. Ils ne partagent pas les données. Ils sont mauvais. Ils ne protègent pas les gens. Si on avait eu des informations fiables sur le nombre de cas et qu'on avait mis en place des systèmes de quarantaine à temps, on aurait pu sauver des dizaines de milliers de vies humaines. Mais on a échoué.
Une critique d'autant plus dure pour le pouvoir qu'elle touche à un domaine particulièrement sensible. La qualité du système de santé, c'est en quelque sorte un contrat moral et politique entre le président et sa base populaire depuis les années 2000. Ahmet İnsel, politologue et auteur de l'ouvrage « La nouvelle Turquie » d'Erdogan.
Il avait fait quelque chose qui était, à mon avis, juste, c'est-à-dire de supprimer dans l'offre publique de santé, le système a différentes classes, réservées aux fonctionnaires un service de meilleure qualité et réservées aux salariés un service de moindre qualité dans les hôpitaux publics. Il avait unifié les services publics hospitaliers et ouvert à tout le monde ce service public hospitalier, ce qui a beaucoup joué dans le maintien du soutien populaire aux partis au pouvoir, malgré les turbulences économiques.
La base du président s'effrite et Şebnem Korur-Financı fait partie de ces figures de la société civile qui ne mâchent pas leurs mots contre sa gouvernance.
Ce n'est pas de l'incompétence, c'est une manière de gérer le pouvoir. C'est le cas de toute façon sur tous les sujets. En réalité, ce flou et ce mode de gouvernement qui vise à contrôler plus facilement la société se rapprochent des méthodes des gouvernements fascistes.
Şebnem Korur-Financı est surnommée la terroriste par le président Recep Tayyip Erdogan qui n'aime pas être défié. Les explications du politologue Ali Behramoğlu.
Monsieur Erdogan déteste le fonctionnement autonome, que ce soit la banque centrale, que ce soit les universités, que ce soit les chambres de médecins, que ce soit les chambres des avocats. Donc il veut qu'ils soient dépendants de lui. S'ils ne sont pas dépendants de lui, qu'ils soient sages. Et s'ils ne sont pas sages, s'ils sortent leur voix, il est vraiment mécontent. Et ils veulent le priser. C'est un peu ça.
Şebnem Korur-Financı a déjà fait 10 jours de prison en 2016. La médecin avait manifesté sa solidarité à l'égard d'un quotidien de la gauche pro-kurde. Elle attend aujourd'hui d'être convoquée à un nouveau procès.
Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Françoise Grelot. Retrouvez l'émission sur notre site rfi.fr, à la page podcast et sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt.